Déchetterie fermée. On pourra pas plus avancer ce soir.
Pas grave, on a fini la chambre, le bureau et la cuisine déjà.
Elle en gardait du bordel, mamie.
Ouais.
Toutes ces maquettes de voiliers, là. Ça me fait mal de les jeter, hein. Et à la fois, j'imagine pas du tout ramener tout ça chez moi.
À la limite, on en garde une chacune. Il y en a deux pareilles, là. C'est sympa, ça, d'avoir chacune la sienne.
Ouais, j'aime bien le principe. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir à la maison au moins un objet qui évoque la mère. Avec papy, c'était toute leur vie.
À ton avis, c'était quoi le moins vrai dans leurs histoires? Parce que papy avait quand même un peu tendance à pimenter la réalité à son avantage.
Ou même à raconter carrément n'importe quoi. Mais ça nous faisait de belles aventures l'été.
C'est clair. Je me souviens très bien de la fois où ils nous ont fait creuser tout le sable de l'Anse-Mago, soi-disant pour trouver un trésor.
Qu'est-ce que j'ai pleuré quand j'ai compris qu'il n'y avait rien.
Ouais.
Et tous les livres, on en fait quoi?
Je sais pas. Il y a que des vieilleries. À mon avis, ça vaut rien. Et à la ressourcerie, ils disent qu'ils les prennent plus.
Et ça, c'est quoi?
Ah ça, ça m'intriguait aussi. J'attendais que tu reviennes pour qu'on l'ouvre, parce que ça a l'air ancien. C'est un journal de bord. À son père, tu penses?
Impossible. Il y a écrit 4 juillet 1829.
Ah ouais, c'est peut-être un ancêtre quand même.
Ben tu veux le lire?
Allez.
Jour 1. 4 juillet 1829. La Provence, enfin. Voilà près de 38 ans que je suis dans la marine et je me sens enfin à ma place, les bottes sur la dunette d'un bâtiment à la hauteur de mes ambitions. Contre-amiral de la Bretonnière, cela sonne bien, et bientôt ce nom sera clamé de Toulon jusqu'à Dinan. Suite à mes accomplissements précédents, il ne fut pas très difficile de convaincre mes supérieurs, et donc le roi, que ce bâtiment me revenait de droit. En récompense de mes services rendus, je n'aurais rien accepté de moins que cette magnifique frégate. C'était la Provence ou sa sœur la Proserpine. The Sister Ship, comme le disent les Anglais. Mais la Proserpine est tombée entre leurs griffes quasiment dès sa sortie de l'arsenal de Brest. Ce sera donc la Provence, qui pour passer des mains d'un vulgaire corsaire à celle d'un noble ambassadeur, a été démilitarisée afin de montrer patte blanche à nos interlocuteurs. Il était d'ailleurs grand temps que cet arriviste de Surcouf soit mis à la retraite. Le seul mérite que je lui trouve, c'est d'avoir su choisir cette magnifique figure de proue. Une femme aux cheveux d'écume et à la robe de rempart représentant Marseille. Je me mets en route pour Toulon demain, afin de prendre ma charge. Ce sera mon premier séjour dans cette étrange cité. 12 juillet 1829. Mon ordre de mission est arrivé ce matin, peu après que mon second ait achevé de me faire visiter ma frégate. C'est donc à Alger que nous nous rendrons. En mission parlementaire, rien de moins. Le voyage sera simple et rapide. L'équipage me semble tout à fait capable et notre ligne d'horizon est très claire. Je me dois de mener au nom du roi des négociations avec le dé, c'est-à-dire le chef d'état de la régence à Alger. L'usage consiste à le nommer par son nom, puis son titre, Hussein-Dé. Des cadeaux somptueux et mes talents de négociateur nous permettront sans doute d'obtenir l'arrangement que la France réclame et mérite. L'effacement de sa dette, ainsi que le soutien d'Alger dans la lutte contre les pirates barbaresques qui infestent les eaux méditerranéennes. La Provence fera évidemment grande impression en entrant dans la baie. Je m'imagine déjà me tenant fièrement sur le gaillard arrière, revêtu de mon nouvel uniforme fraîchement apprêté par mon intendant, le regard tourné vers l'avenir, tandis que mon pavillon tricolore claquera majestueusement dans le vent algérien. 19 juillet 1829. Tout est paré pour le départ. Le soleil se couche sur le port de Toulon, et de la tour royale dans laquelle j'ai pris mes quartiers, j'aperçois mes trois mâts et leurs voiles parfaitement ferlées. J'ai donné congé à l'équipage pour cette dernière soirée avec pour consigne de ne point trop s'acoquiner avec la fange locale. Je suis confiant sur le déroulé des opérations. Les jours de préparatifs m'ont permis de parfaire ma connaissance de la situation diplomatique, qui est certes tendue, mais pas insurmontable. L'enjeu est grand, car il s'agit de gagner la confiance d'Alger. Mais le dé aura beaucoup à gagner à prêter l'oreille aux volontés de la France. Demain au petit jour, la Provence et moi ferons notre premier voyage, et notre succès en amènera de nombreux autres. 26 juillet 1829. Malgré une semaine de retard, notre traversée de la Méditerranée est aussi sereine que je l'avais prédite. Si on laisse de côté les péripéties ayant retardé notre départ, je suis fort satisfait des hommes restant à bord. Nul besoin de grandes démonstrations pour asseoir mon autorité comme cela peut arriver parfois. La désertion du second lieutenant et d'autres membres de l'équipage aura eu le mérite de trier le bon grain de livret parmi les marins. Je suis soulagé que ces lâches ne soient plus à bord, même s'ils devront répondre à notre retour de la disparition de notre pavillon diplomatique. Les malandrins toulonnais ou anglais qui pensaient faire échouer ma mission en dérobant de surcroît notre figure de proue ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Il ne nous fallut que peu de temps et de l'or gracieusement tiré de ma solde personnelle pour remplacer ce qui n'était qu'un symbole. La nouvelle proue du navire fend les eaux avec assurance et je m'en inspire pour ma future tâche. Tout comme moi, la Provence ne saurait faillir face à l'adversité. Les embûches ne sont qu'un contretemps sur la route de la gloire. 29 juillet 1829. La large baie d'Alger se profile à l'horizon. Nous y serons dans quelques heures. L'arrivée de la Provence marquera mon entrée dans l'histoire. Son ancien capitaine n'aurait jamais eu les épaules pour une telle mission. Nous ne démériterons pas, ni pour moi, ni pour la France. L'architecture que l'on commence à apercevoir est celle typique du sud de la Méditerranée. Ses hauts murs en pierre de sable sont proprement fascinants, avec leurs créneaux pointus et leurs moucharabiers. Ils invitent à se réfugier en leur sein tout en se dressant farouchement face à leurs ennemis, desquels je suis en vérité soulagé de ne pas faire partie.
Bah, c'est tout. Ça s'arrête comme ça.
On dirait bien.
Bah, la Provence a coulé au milieu de la mer ou quoi? Ça se termine d'un coup.
Ou alors il a repris son récit dans un autre carnet? Bah non, il reste des pages vierges, c'est bizarre.
Attends, ça c'est clairement des restes de pages arrachées.
Arrachées par qui? Oh, c'est décevant, j'avais envie de connaître la suite, moi.
En tout cas, il manquait pas de confiance en lui, le contre-amiral.
Ouais, un peu trop, non? Il a une de ses façons de décrire les préparatifs. Apparemment, ça s'est quand même mal passé, et on dirait que tout est normal.
Se faire tirer sa figure de proue, c'est pas rien quand même, si?
C'est sûr. C'est pour ça que j'aurais bien aimé connaître la suite, s'il y en a une.
Bon, c'est quand même chouette d'avoir trouvé ça, même incomplet. Heureusement qu'on a pris le temps de fouiller, hein.
Attends, il y a des papiers calés dans la couverture.
Ah.
Ben ouais, regarde.
Ça, c'est un brouillon de lettres. C'est son écriture, regarde la date. C'est juste après son arrivée en Algérie.
Ah, donc le navire n'a pas coulé.
On va peut-être savoir ce qui s'est passé.
Pourquoi, tu penses que ça s'est mal passé?
Pas forcément mal, mais pour qu'il arrête d'écrire d'un coup, c'est qu'il s'est passé quelque chose, non?
Ou alors il est juste nul. Ou alors il avait plus d'encre.
Et s'il avait reçu l'ordre d'arracher les pages?
Ah ouais, mieux! Un ancêtre diplomate agent secret, ce serait super classe.
Si ça se trouve, c'est pas ça du tout. Bon, je lis, hein.
Toulon, le 7 août 1829. À Sa Majesté Royale Charles X. Votre Grâce. C'est avec une infinie tristesse que je prends la plume pour vous rapporter les faits et événements de ces derniers jours, qui auront certainement de lourdes répercussions prochainement. Sur votre ordre, nous sommes arrivés en terre d'Alger le 29 juillet, avec pour mission de porter haut la voix de Sa Majesté auprès du dé. Nous fûmes accueillis avec tous les égards qui nous étaient dus, et c'était la moindre des choses, puisque ma personne vous représentait en ces lieux. Les curieux se pressaient sur les quais lors du débarquement de la délégation diplomatique, et vos hommes surent tenir leur rang pour votre gloire. Les plénipotentiaires nous firent visiter la Casbah, vantant l'opulence de son trésor, tout en le gardant hors de notre vue. Je vous précise, Majesté, qu'ainsi je n'ai pu confirmer votre estimation de 80 millions de francs. Elle me paraît toutefois fort vraisemblable au vu des richesses étalées sous nos yeux et des échanges concernant le commerce florissant de ces contrées. La rencontre avec Hussein-Dé se passa à merveille, chacun reconnaissant en l'autre les qualités requises à l'ouverture des négociations. Sachez que, grâce à la puissance de votre règne, dont nul ne peut douter à travers le continent, nos interlocuteurs n'ont eu d'autre choix que d'être particulièrement à l'écoute de vos demandes. La lutte contre les pirates barbaresques et l'annulation de la dette de vos prédécesseurs, qui n'est aucunement de votre responsabilité. Les discussions étaient sur le point d'aboutir favorablement, ne manquaient que les signatures en bas des traités. Soudain, au détour d'une phrase pour le moins badine, Hussein-Dé se tourna vers moi et, devant toute l'assemblée, me souffleta brutalement de son éventail de bois. Ne pouvant décemment ignorer cet affront, non pas seulement à ma personne, mais à la France tout entière, j'en demandais... Non, j'exigeais immédiatement réparation. Si le dé ne m'avait pas fait encercler par ses hommes d'armes, il n'aurait sans doute pas passé la nuit. Les gardes nous reconduisirent jusqu'au port, non sans mal pour eux, sans même que l'on nous permette de récupérer nos effets. Nous n'étions nullement venus avec des intentions belliqueuses, et nous fûmes pris au dépourvu par cette façon d'agir avec des ambassadeurs de Sa Majesté. Espérant que le dé ait recouvré ses esprits quelques heures plus tard, nous laissâmes passer la nuit. Au matin du 3 août, alors que je m'apprêtais à redescendre du navire, laissant de côté mon orgueil pour la gloire du royaume, une formidable détonation se fit entendre. Sans aucun coup de semonce, les canons d'Alger s'étaient tournés vers nous, et 300 livres de plomb tonnaient désormais dans notre direction. La Provence étant désarmée, nous fûmes contraints à la retraite. Les jours qui suivirent furent empreints de colère et d'incompréhension, même pour l'équipage. Pour ma part, je cherche depuis lors les mots pour annoncer à Sa Majesté l'échec de ma mission. J'attends les ordres qui seront les miens, ayant regagné Toulon, en demandant à Dieu qu'il m'accorde, si ce n'est votre générosité, du moins votre mansuétude. Je ne doute pas que dans votre sagesse, vous saurez reconnaître les talents qui furent les miens durant ces événements, et que mes loyaux services seront récompensés d'une médaille honorable. Votre dévoué, Valdemar Guillaume Botterel de la Bretonnière, capitaine de la Provence, contre-amiral de la Marine Royale.
Oups, le type s'est fait humilier, quoi.
C'est fou, ça. Mamie gardait un journal de bord de juste avant la conquête de l'Algérie. Pourquoi c'est pas parti au musée de la Marine, un truc pareil?
C'est peut-être pas trop tard. Ils en voudront sûrement. Mais tu dis ça pourquoi? C'était quand, en fait, la conquête de l'Algérie?
1830. Un an plus tard, quoi.
Ah ouais. Et tu crois que c'est une histoire familiale? Elle est bizarre, cette histoire, en plus. Il arrive à Alger sans problème. Il obtient ce qu'il veut. Et après, il se prend une gifle. Comme ça, sans raison.
Un coup d'éventail. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Finalement, j'espère que c'est pas notre ancêtre, parce que ça m'a l'air d'être un sacré loser.
Mais alors, juste après, la France a envoyé toute sa flotte envahir l'Algérie? Pour une gifle?
Il s'est quand même pris des coups de canon en partant. Mais c'est vrai que c'est pas hyper crédible comme motif.
Il y a forcément autre chose. Il y a d'autres trucs dans la couverture, non?
Oui, deux autres lettres. Elles ont l'air tout aussi vieilles.
Celle-ci, c'est pas son écriture.
Non, c'est une lettre qui lui est adressée, regarde. Monsieur le contre-amiral, bla bla bla. Ah ouais, la vache, c'est pas tendre.
29 août 1830. Monsieur le contre-amiral Valdemar Guillaume Botterel de la Bretonnière, cher confrère, cher rival, cher estropié. J'ai appris qu'afin de subvenir aux besoins de la couronne dans sa conquête de l'Algérie, la Provence avait été remilitarisée et que vous aviez participé à la campagne. J'espère que tous ces combats ne vous ont pas trop amoché, connaissant votre dextérité au sabre. Sachez, mon cher ami, que je compatis à votre souffrance. Je crois cependant que vous devez vous consoler. Vous avez savamment servi les intérêts du roi l'année dernière en vous contentant d'être ce que vous êtes, un parfait imbécile. J'étais en ce temps-là assuré de vous être largement supérieur, mais je dois bien avouer que les récents événements m'ont fait douter de cette certitude. Peut-être était-ce finalement moi, le bouffon. Toujours est-il que j'ai commis un véritable péché d'orgueil et, disons-le franchement, de gourmandise. Bouillant de rage après que ma Provence soit devenue un navire diplomatique et moi un insignifiant piéton, j'ai ourdi le complot de vous rendre le plus ridicule possible. Non pas que vous en ayez spécialement besoin, mais je vous haïssais au moins jusqu'à la lune. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai caché le fruit de mon erreur, dans une obscurité suffisamment profonde pour y dissimuler ma honte. Je crains que la vérité ne vous soit cachée à jamais. Mais consolez-vous, malgré toutes les apparences qui pourtant pèsent contre vous, ce n'était pas tant votre faute. J'ai voulu vous moucher, mais vous étiez sacrément enrhumé, car l'éclaboussure s'est ressentie de part et d'autre de la Méditerranée. Je souhaite qu'un jour, un homme soit capable de retrouver les preuves de ma culpabilité, mais je crois que nous ne connaîtrons ce bonheur, ni vous, ni moi. En attendant, je m'en vais confesser mes aveux aux autres personnes que j'ai insultées bien plus que de raison. Je vous adresse ainsi mes salutations, sans doute les moins respectueuses, mais en tout cas les plus sincères. Robert de Surcouf.
Attends, qu'est-ce qu'on est en train de lire, là?
C'était pas le grand amour entre les deux, là.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'autre, là, avec son erreur et sa planque?
Il a planqué son erreur? Ou bien planquer ce truc était une erreur?
Et mamie, elle gardait tout ça au milieu de ses livres de cuisine. C'est peut-être grave, non? T'imagines?
Aucune idée, mais j'adore.
Comment il s'appelle, lui?
Robert de Surcouf. C'est l'ancien capitaine de la Provence, la Bretonnière l'évoque dans son journal.
Et pourquoi il parle de la lune?
Je sais pas. Ça n'a aucun sens au 19e siècle.
Il y a des romans qui parlent de l'explorer, déjà en 1650, tu sais.
Oui, enfin, c'était pas très prometteur, je pense.
Ouais, t'as raison. Je comprends plus rien. Et c'est quoi la dernière lettre, alors?
Tiens, regarde.
C'est la bretonnière qui écrit. Encore un brouillon?
Non, non, regarde la mise en page. C'est une lettre originale, cette fois. Il écrit à qui? Toujours au roi? Charles X?
Non, il écrit au président de la République.
Bah alors, c'est beaucoup plus tard, non?
20 ans plus tard.
Paris, le 7 août 1849. À l'attention de Monsieur Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française. Monsieur le Président, je me présente. Waldemar Guillaume Botterel de la Bretonnière, commandeur de la Légion d'honneur et contre-amiral de la marine républicaine. Si je prends la plume en ce jour particulier, c'est pour tenter d'effacer le souvenir, ô combien honteux, d'une autre missive envoyée il y a désormais 20 ans. À cette époque, j'avais l'honneur d'être capitaine de la Provence, une splendide frégate diplomatique affrétée spécialement pour la mission que l'on venait de me confier, apaiser les tensions avec le dé d'Alger. Comme vous le savez, des événements tragiques découlèrent de l'affront qui me fut fait lors de ce voyage. Ce que vous ignorez, monsieur le président, c'est que le fameux coup d'éventail n'est qu'un tissu de mensonge. Le 19 juillet 1829, tout était paré pour notre départ. Je donnais congé à mon équipage. J'aurais dû être plus méfiant, connaissant la réputation de Toulon. Au petit matin, je fus réveillé par mon aspirant pris de panique, m'annonçant la disparition de notre pavillon parlementaire, mais également de notre figure de proue. Cela me paraissait hautement invraisemblable, et pourtant, elle avait été arrachée au pied de biche à la faveur de la nuit, tandis que notre pavillon avait, lui, été dérobé par le second lieutenant, qui a ensuite déserté avec certains de ses vils compagnons. Il nous fallut près d'une semaine pour remplacer par une pâle copie notre figure de proue et faire confectionner un nouveau pavillon sans lequel nous ne pouvions pas sereinement approcher d'Alger. Je pris la décision de minimiser cet épisode dans mon journal de bord afin de ne pas trop m'apesantir sur les préparatifs. Au soir du 28 juillet, nous croisâmes au lointain un navire revenant d'Alger, un élégant trois-mâts qui, d'après notre vigie, battait pavillon tricolore. Je fus un instant surpris de croiser un compatriote dans ses eaux. Mais tout à ma mission, je me contentais de lui faire envoyer les salutations d'usage. Le lendemain matin, la Provence entra pacifiquement en baie d'Alger. Il n'y eut qu'une seconde de silence. Puis de tous côtés, les canons algériens se mirent à tonner, nous submergeant d'abord d'écume puis de plomb et d'éclats de notre propre bois. Sans sommation, nous fûmes attaqués de la rive et de la mer. Nous eûmes beau afficher notre pavillon diplomatique, leur envoyer tous les signaux nécessaires, rien n'y fit. Malgré les réticences du second, je souhaitais que l'on s'approchât davantage des murailles. Une fois de plus, je péchais par orgueil, étant certain de leur faire entendre raison simplement en me montrant à la proue. Il suffit de quelques instants pour que les dégâts subis par la Provence soient considérables. J'ordonnai alors un repli immédiat afin de sauver ce qui pouvait encore l'être, du navire et de son innocent équipage. Par chance, ou par mépris, les Algériens ne nous poursuivirent pas à travers la Méditerranée. L'équipage parvint à calfater juste assez les brèches pour tenir jusqu'à Toulon malgré des voiles en lambeaux et un grand mât privé de la moitié de ses haubans. De nombreux sentiments me traversèrent alors. L'incompréhension, la colère, la honte. Mes pensées me ramenèrent vers le navire français croisé la veille. Pourquoi celui-ci avait-il navigué dans les eaux algériennes sans difficulté alors qu'il était si difficile pour nombre de bateaux français de les traverser, et que nous-mêmes avions été si brutalement attaqués. Des heures durant, je me questionnais sur les erreurs que j'avais pu, que j'avais dû, commettre pour me rendre responsable d'une telle situation. La trahison du second lieutenant ne me paraissait plus alors si anecdotique, et je cherchais en vain à en comprendre les raisons. Il m'était impossible de revenir de cette manière auprès du roi. J'élaborai alors une histoire que je jugeais crédible, une version plus élégante des événements. J'ôtai de mon carnet de bord les pages relatives à notre arrivée, et comptai à Charles X l'accueil qui nous fut fait à Alger, inventant les politesses diplomatiques qui nous attendaient. Lorsque j'en vins aux agressions subies par la Provence, que je narrai véridiquement, je les plaçai dans mon récit après un coup d'éventail de la part du Sende. Ainsi, aux yeux de la France, j'aurais mené à bien ma mission, même si l'issue n'en avait pas été favorable. Je fus lâche, pour ne pas être honteux. Lorsque je pris la plume pour écrire au roi, j'avais conscience des conséquences possibles de ma missive. Mais sournoisement, je me figurais à l'époque que l'Algérie ne méritait rien d'autre que l'envoi massif de troupes françaises au regard de l'affront que je venais de subir. Ainsi fut fait. Je demandai au premier lieutenant de payer, sur mes propres fonds, tous les hommes qu'il jugeait nécessaires afin de m'assurer leur silence. Après tout, nous étions à Toulon. Même si certains d'eux allaient raconter leur propre version de l'histoire dans les cabarets du port, cela ne ferait que s'ajouter aux différentes rumeurs et ragots qui pour certains remontent à l'époque du Roi Soleil. Mon récit fut bien plus pris en considération que je l'avais souhaité. De mon mensonge naquit une invasion qui se pensait tout à fait légitime. Cette campagne, qui a coûté plus de 50 millions de francs, ne rapporta pas au roi ce qu'il avait espéré. Le légendaire trésor de la Casbah n'était que légendaire et son abondance très exagérée. De plus, je taisais également des informations reçues par lettre quelques mois plus tard. Robert de Surcouf, l'ancien capitaine de la Provence, avait mis la main sur un immense secret. Je compris qu'il avait commis un outrage majeur, sans en connaître la nature. Mais ce corsaire de pacotille n'a pas plus que moi assumé ses erreurs et ses mensonges auprès de la France. Dans sa missive, il confessait sa culpabilité et expliquait avoir caché son erreur sur la Lune. Cette phrase me poursuivit longtemps, car cela me mettait en rage de ne pas comprendre le sens. Lors d'un voyage à Toulon des années plus tard, je me renseignai sur ses propos. J'appris qu'il s'agissait d'une vieille tradition des malandrins locaux de s'enorgueillir de cacher leur forfait sur la Lune. Cette Lune toulonnaise, je la contemplais de longues nuits sans y trouver ni réponse, ni absolution. Je finis par rentrer chez moi, en classant cela parmi les nombreuses inepties de ce moins que rien de Surcouf. Mon existence se termine, et je serai bientôt enterré aux côtés de ma lâcheté et de mes mensonges. Je ne suis pas certain de changer par mes mots le destin de notre patrie, cependant peut-être que ce sursaut d'honneur saura atténuer ma honte avant de quitter ce monde. Je n'ai rien de plus, Monsieur le Président, à vous offrir que cette vérité trop longtemps tue. Dans votre sagesse, vous saurez certainement comment l'utiliser. Pour la France, Valdemar Guillaume Botterel de la Bretonnière, contre-amiral de la Marine républicaine, commandeur de la Légion d'honneur.
Quel gros mytho ! Il se confesse 20 ans après, ce vieux lâche !
Ben non, justement. Si c'est la lettre originale, bien mise et tout, pourquoi elle était dans le journal ?
Oh ! Il l'a jamais envoyée ! Il s'est juste dégonflé !
Pff, si c'est vraiment notre ancêtre, ça m'étonne pas que mamie ait jamais donné ça à un musée. La honte, quoi.
J'aimerais bien savoir ce qui s'est vraiment passé, quand même.
Ouais, moi aussi.
Dans sa lettre d'insulte, Surcouf dit qu'il va faire des aveux aux insultés. Les Algériens ?
Je vois pas qui d'autre.
Comment on pourrait savoir ?
J'ai peut-être une idée.